Bien.
Ok.
Bien, bonsoir, c'est la rentrée. Que veux-je dire? Tiens, tu peux me passer un papier? Est-ce qu'il y a des personnes un peu nouvelles là, qui sont jamais venues ici? Oui, d'accord. Si vous pouvez mettre, ça ne vous dérange pas, votre adresse email, on envoie des mails, hein, ça serait une chose. D'autre part, c'est mon côté juif polonais, je fais des affaires avant de commencer. S'il y en a que ça intéresse des livres que votre serviteur a écrits, je vous conseille. Voilà, prenez hein, pour la personne dont on a parlé. Voilà. Bien. Ok. Donc, on va commencer. Le sujet qui m'a interpellé, c'est donc il y a eu des années, on pourrait dire, de libéralisme économique à tout craint. Et je ne suis pas du tout économiste. Alors, pas du tout, mais manifestement, ils se sont rendus compte des limites de ce système. Et donc, les gouvernements occidentaux essaient de réguler un peu ça. Et en particulier, il y a une semaine ou deux, cette lettre dans le Nouvel Observateur des super riches en France qui ont dit « Taxez-nous, on veut payer plus d'impôts, on veut payer plus d'impôts. » Voilà. D'autre part, il y a toujours cette famine terrible en Somalie. Et c'était dans tous les journaux comme ça, ils ont mis qu'il fallait en urgence un milliard d'euros. Alors ils ont trouvé facilement 500 millions. Et après, ils ont patiné pour trouver les 500 autres millions. En réalité, ça fait rigoler. Enfin, ouais, si on trouve ça drôle, je trouve ça rigolo, quoi. Parce que si vous voyez les chiffres d'affaires des multinationales, c'est, comment dire, ils investissent des milliards de dollars à droite et à gauche. Et, enfin, c'est de la rigolade. Enfin, c'est pas drôle. Mais disons, c'est drôle tout en étant drôle sans l'être. Et il y a des pays, bon certes, il y a des pays qui étaient dans la misère noire il y a 40 ans, qui maintenant sont moteurs dans l'économie mondiale, évidemment. Mais ce qu'on appelle les pays émergents. Mais il y a des pays qui sont dans des marasmes terribles. Et certes, il y a des structures politiques qui sont complètement dégradées dans des pays, surtout des pays africains. Mais d'un point de vue, je ne sais pas, j'ai lu ça, je pense comme vous aussi, que d'un point de vue économique, pour remettre pour des systèmes éducatifs ou des systèmes sanitaires ou des entreprises, etc., ce serait rien d'un point de vue économique par rapport au flux financier mondial. Alors bon, on voit ça, on se pose, c'est bizarre quoi. Alors et puis aussi, on voit ici en France, ça c'est ce que je vous dis, et vous voyez ça dans le 20 minutes qu'on met dans la poubelle, hein, c'est un résumé. Je vous fais résumé de deux mois des journaux qu'on n'a pas eu gratuitement dans le métro. Je vous les résume. Ouais. On voit par exemple que dans les pays occidentaux, il y a un effondrement des classes moyennes. Ça, c'est évident. Alors, par exemple, là cet été, le nombre de gens qui sont restés à Paris, il y en a plein. Pourquoi ils sont restés à Paris? Ils n'ont pas de fric, c'est tout. Ouais, ils n'ont pas de fric. Il y en a plein. Il y a 4 ans, ça n'existait pas. Il y a 4 ans, ça n'existait pas. Je sais pas, j'ai plein de copains, dont moi-même. Ouais. Mais où t'étais? Je suis resté à Paris. Ben pourquoi? Pas de fric, c'est tout. Il n'y a pas. Voilà, il part aux États-Unis et les gens, ils n'ont pas honte de parler de fric. Moi non plus. Tac. Mais c'est dans l'autre sens, il paraît. Là-bas, ils n'ont pas honte de dire qu'ils ont du fric. Mais moi. Bon. Mais alors, le... Voilà, Mais il y en a plein. J'ai plein d'amis, d'élèves, que sais-je, qui ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis, ils n'avaient pas d'argent, c'est tout. Pourtant, ici en France, c'est sacré, les vacances. C'est vraiment sacro-saint. Ouais, et ben, il y a eu une hérésie. Voilà. Nous avons vécu un été hérétique, oui, profanateur, où les gens, pas mal de personnes, sont restées sur place. Mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors, donc la question d'une solidarité sociale qui, je dirais, depuis le milieu du 19e siècle était évident en Occident, depuis, je ne sais pas, 20 ans, surtout on n'entendait plus parler de ça, ne me parlait plus du tout de solidarité sociale. Ouais, c'est, faut pas gâcher l'ambiance, ne parlez pas de ça. Et ça revient, on reparle de ça. Voilà. Alors moi, je me suis dit, comment dans la Torah c'est abordé? Ça va être le sujet. Et toc. Ça va être le sujet. Alors, ça a un nom, ça s'appelle l'Atsdaka. Alors, c'est comme d'habitude, ça va être un travail un petit peu patient. Hein, je ne vais pas vous faire un grand discours fleuve sur le sujet. Je ne vais pas faire de discours du tout. On va étudier les versets sur le sujet. Les versets sur le sujet et Maïmonide sur le sujet. Voilà. Bien. Donc, on n'aura pas terminé le sujet ce soir. Mais alors, la prochaine fois, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Ça sera, donc, on commence le sujet. Je pense qu'on terminera la semaine, dans 2 semaines. Et à part ça, la semaine prochaine commencera mardi de 19h, de 19h à 21h, une étude pour public féminin. Peut-être 19h30, je ne sais pas, j'ai envoyé le mail, j'ai mis les horaires précis. Excusez-moi, je vous dis ça tout de suite, les horaires précis. 19h45-21h. 19h45-21h. La semaine prochaine, avec une jeune femme qui s'appelle Judith Bloch, qui fera ici un cours pour public féminin d'Halachot Shabbat. D'Halachot Shabbat. Introduction aux lois de Shabbat. Et si ça vous intéresse, vous verrez sur le mail le numéro de téléphone. Voilà. Le mail que j'ai envoyé, le numéro de téléphone. Voilà. Donc c'est une jeune femme qui connaît très bien, très sympathique, et qui voilà, fera ce cours. Bien. Donc ça sera toutes les semaines, avant mon cours de 21h à 23h. Bien. Ce étant, on va commencer donc le Mishneh Torah de Maïmonide. Je vous passe des photocopies. Le texte que vous avez devant vous, c'est le Mishneh Torah de Rambam. Voilà. Donc Rambam, donc on dit, dans notre tradition, on appelle Rambam. C'est qui Rambam? C'est Rabbi Moshe Ben Maimon. Voilà, appelé en Occident, on l'appelle Maïmonide. Alors, dans notre tradition, Rambam est surtout un talmudiste et un décisionnaire. D'ailleurs, Rambam, quand il signait Moshe, fils du juge Maïmon. Son père était juge rabbinique à Tolède. Et quand il signe toujours, oui, Moshe, fils du juge Maïmon. Donc c'est la culture de Rambam, c'est d'abord culture talmudique et décisionnaire. Ça veut dire homme de loi. Bien, homme de loi. Alors c'est vrai qu'en Occident, quand on parle de Maïmonide, on a surtout l'idée, bon, de deux choses. D'abord, éminent médecin et super éminent philosophe. Ce qui est vrai. Mais pour nous, disons, dans la tradition juive, il est d'abord un talmudiste hors pair et le décisionnaire par excellence. Tellement décisionnaire par excellence que systématiquement, quand on veut dire un livre de loi, bien beau livre de loi, on prend le livre de loi de Maïmonide qui s'appelle le Mishneh Torah. Donc ce que nous allons voir, c'est le septième chapitre des lois des dons aux pauvres. Ah oui, encore petite introduction, c'est que le Mishneh Torah est fondé sur la chose suivante. C'est-à-dire que Maïmonide, avant de rédiger le Mishneh Torah, il a fait une œuvre colossale qui s'appelle le Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot, le livre des Mitzvot, le livre des commandements, où il répertorie quels sont les 613 commandements de la Torah. C'est-à-dire, le Talmud dit, dans le traité Makot, que dans la Torah, il y a 613 commandements. Mais ils ne sont pas répertoriés. Et qu'est-ce qu'on considère qui est un commandement? Qu'est-ce qu'on considère qui n'est pas un commandement? Alors, il a écrit un livre, d'ailleurs en arabe, rédigé en arabe, ça s'appelle le Sefer HaMitzvot. Une fois qu'il a isolé, si vous voulez, comme un tableau de table de Mendeleïev, ouais, que y a chaque élément est isolé, chaque mitzvah est bien isolé, il va reprendre tous ces commandements par thématique. Il va donner les lois relatives à chaque commandement. Alors, c'est organisé en plusieurs parties et en sous-parties. Et là, ce qu'on va voir, c'est les mitzvot relatives aux dons aux pauvres. La Torah prévoit beaucoup de commandements de dons aux pauvres. Par exemple, en terre d'Israël, si vous avez un champ, un verger, eh bien, quand vous faites la récolte, il faut laisser un coin pour les pauvres. Un coin que vous ne le fauchez pas, que vous ne cueillez pas. Un coin du verger, par exemple, vous laissez pour les pauvres, pour que les pauvres viennent se servir. Ça s'applique encore aujourd'hui. Ça s'appelle Mpea, c'est-à-dire un coin. Ça, c'est la Torah prévoit donc des dons pour les pauvres. Et entre autres dons pour les pauvres, il y a les commandements relatifs à la tzedaka. Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est le septième chapitre. Perek Shevi. Alors, comme, si vous voulez, comme on travaille du texte, si vous avez des questions, on bosse ensemble, vous avez une remarque, hein, on travaille ensemble. Perek Shvi, 7e chapitre. Mitzvah tase, liten, tzedaka, l'anié Israël, que fima shiraou l'ani, im aita yad, anoten maseget. Commandement positif, sous-entendu de la Torah, donc c'est un des 613 commandements de la Torah. Liten tzedaka, de donner de la tzedaka aux pauvres d'Israël, aux pauvres du peuple juif. Que fima sheraoui leani, selon ce qui est nécessaire aux pauvres. Imaita yad anoten maseget, si le donateur en a les moyens. Ça veut dire, il y a beaucoup de choses dans ces quelques mots, c'est-à-dire, donc il y a une mitzvah tassé de donner la tzedaka. Entre parenthèses, nous allons nous interroger tout au long de notre étude sur le sens du mot tzedaka. Ça veut dire quoi tzedaka?
C'est daka, sortir une minute de soi.
Elle est complètement shootée. Ça. Bonjour Ariane, ça va? Ça boum? Non, c'est bien, c'est mignon. C'est mignon. Ouais, c'est mignon.
Sortir.
C'est bien. C'est...
Solidarité.
Comment?
Solidarité.
Ah, ouais, alors on va. Non, mais vous avez compris que c'est une question piège quand même. Ah, alors, mais ça, on va y aller doucement, hein.
On va écrire ça.
Ce daka, ok. Oula. Ce daka, ok. Bien. Ce daka, évidemment, il y a le mot tzedek. Oui, tzedek. Bien, alors, vous avez dit...
Solidarité.
Solidarité.
Pas charité, justement.
Oui, alors...
Plus que la charité.
Oui, alors, d'accord. Oui, oui.
Chez nous, c'est pas ça, c'est rétablir une égalité.
Alors, on va voir, on va voir. Vous êtes déjà dans les conclusions, là. Non, mais je cherche la traduction du mot tzedaka. Il y a le mot tzedek. Comment? Tzedek, qui veut dire droiture. Moi, je dirais plutôt droiture. Tzedek, parce que justice, c'est mishpat. Justice, ce serait plutôt mishpat. Hein, c'est différent. Mishpat. Mishpat, c'est justice. Tzedek, je dirais, c'est droiture. Mais bon, disons... justice, quand même, quelque part, hein, justice. Mais quelle justice? On va voir, je comprends pas, il y a un pauvre, il a qu'à bosser, ce flemmard, je comprends pas, moi. Quelle justice? Je comprends pas. Moi, je bosse du matin au soir, et lui, il flâne, là. C'est le parasite.
S'il est pauvre, c'est juste comme ça. On pourrait dire ça.
Des fois, tu vois bien que c'est un glandeur.
C'est souvent.
Il y a des riches, il y a des pauvres.
C'est souvent des glandeurs.
Je sais pas. Moi. Je trouve que c'est pas juste de donner la tzedaka. Apparemment, non, je sais pas. On va voir, hein, mais je vois pas. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de juste. Non, il y a des gens, je sais pas, qui ne sont pas forcément ni forcément doués ni forcément. Géniaux, ils sont en face d'une difficulté, ils scoltinent, ils veulent s'en sortir. Et il y en a, ils ont des difficultés, ils foutent rien. Non, je sais pas, je vois pas pourquoi moi je serais solidaire de ces demi-portions. Non, mais vous pensez pas comme ça? Non?
Moi, je suis d'accord avec vous. Je veux pas aider les gens.
Comment?
Je veux pas aider les gens.
Voilà, alors... Il y a des gens même, je sais pas, ils sont étroits d'esprit. Vous voyez, des gens, ils se noient dans un verre d'eau, ils ont une difficulté, ils coulent avec cette difficulté.
Ils sont désassistés.
Ouais, voilà.
C'est
des... Ouais, c'est vraiment pas l'aider que lui donner quelque chose. Allez,
on peut pas savoir,
bouge.
On peut pas savoir, si c'est désassisté ou pas, s'ils sont fainéants ou pas.
On peut peut-être faire un test. Non, mais je lance ça comme ça.
On
hein,
peut
mais...
juger la personne parce qu'on ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Et si elle ne peut pas.
Ah oui, bon, il y a des gens, ils peuvent pas.
Non,
ça, il y a des gens, ils peuvent pas. Bon, alors ça, on comprend. Ça, on peut comprendre. Bon, je ne sais pas, on va voir. Hein. Si vous voulez, je lance... non, parce que... justice, je ne sais pas, il faut voir. Justice. Alors, vous dites solidarité, on va voir. Mais solidarité ne rentre pas. Solidarité ne rentre pas dans la racine du mot de tzedaka. C'est peut-être ce que vous dites. Ouais. On va voir. Ok, donc on reprend maintenant Maïmonide, premièrement. Deuxièmement, donc le terme tzedaka qu'il faut définir. Mitzvah tassé liten tzedaka, donc c'est un commandement positif de donner la tzedaka aux pauvres du peuple juif. Ok, qu'est-ce qu'il en est des pauvres non-juifs? Et il n'y a pas la mitzvah. Pourquoi? On va voir. On va voir. Est-ce que quelqu'un peut fermer bien le robinet là-bas, parce qu'il fuit un petit peu? Ça ne vous dérange pas, merci. Voilà. Donc c'est clair, dans Maïmonide, il n'y a pas la mitzvah de tzedaka par rapport à quelqu'un qui n'est pas juif. On va voir, ça va être défini dans la suite. Hein. Ensuite, que fima sheraou ileani imaita yad anoten maseget. Selon ce qui est nécessaire pour le pauvre, si le donateur en a les moyens. C'est-à-dire, il va le définir dans la halakha Gimel, dans la troisième halakha, il va le définir que la mitzvah est de combler le manque du pauvre. C'est-à-dire, comment ?
Se démunir.
On va voir, on va y aller doucement si vous voulez. C'est, si quelqu'un c'est un richard, c'est ce qu'il dit. Imaita yad anoten maseget. Si le donateur en a les moyens, il y a par exemple quelqu'un, il va se marier comme on va voir, mais il n'a pas les moyens de s'acheter, de louer un appart, d'avoir de l'électroménager, d'avoir des meubles, d'avoir un costard pour le mariage, etc. Eh bien, la mitzvah, si la personne en a les moyens, c'est de pourvoir aux besoins, à la nécessité du pauvre. Ce n'est pas 50 euros. Ça, ce n'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est de pourvoir aux besoins du pauvre. C'est les mots, hein. C'est les mots. Imaita yad anoten maseget. Si le donateur en a les moyens. Chez Nehemar, comme dit le verset. Patoar tiftar et yatra lo. Ouvrir, tu ouvriras ta main pour lui. Venema, et c'est écrit, Vechizak tabo ger vetosha vechay imar. Venema vechay achicha imar. On va voir les versets. Les versets à la fin de cette halakha sont dans Parashat Be'ar. Donc prenez des textes dans Bamidbar. S'il y en a qui veulent en français, peut-être, je peux vous passer en français.
Mais encore un autre texte en français, si quelqu'un veut. Alors.
J'en ai plus. Excuse-moi.
Vas-y.
Alors. Non, c'est bon, je vais prendre. Donc, c'est dans Bamidbar, dans le livre de Bamidbar, dans Parashat Béhar. Non, c'est pas dans Bamidbar, je me suis trompé. C'est dans Vaïkra. Je vous ai donné des mauvais livres, excusez-moi. Oh là là. Vaïkra. Donc les textes le texte en français là-bas, c'est pas bon. Hein. Je vous en donne un autre. C'est chapitre Kaf E, Pasouk, Lamed E. Chapitre Kaf E, Pasouk, Lamed E. C'est-à-dire en français, chapitre 35, chapitre 25, verset 35. Je répète, chapitre 25, verset 35. Je reprends dans Vaïkra Kaf E, Pasouk Lamed E. Donc chapitre 25, verset 35. C'est bon ? On y va. Vechi yamur achicha u mata yado imar. Ve'erezakta bo ger vetosha vachayima. Est-ce que ça va? Vous avez les versets? C'est bon, messieurs, dames? Ça roule? Alors, regardez, c'est dans le Lévitique. Ouais. Lévitique, chapitre 25, verset 35.
J'ai coutume de dire que si à mes cours on n'apprend qu'une seule chose, c'est trouver un verset, c'est déjà bien.
On a déjà appris ça. C'est déjà ça. Voilà.
Ok. Je prends le verset. Veri amour achicha.
Si Périclite, ton frère, ou Mata Yado Imar, il perd prise avec toi. Vechezak tabo, saisis-le, prends-le. Ger vetoshav, étranger ou résident, et il vivra avec toi. Bien. Donc, comment c'est écrit la traduction ?
Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi.
C'est bon, c'est le même genre. Ok. Vechiyamur achicha, donc si ton frère périclite, ou mata yado imar, il perd prise avec toi. Donc c'est-à-dire, ton frère, il a un revers, si vous voulez, de fortune. Il chute, il a perdu ce qu'il avait, voilà. Et il coule. Alors, Echezak Tabo, saisis-le. Chazak, hein, le terme chazak, force, donc prends-le, saisis-le. Echezak Tabo, Ger Betoshav, étranger ou résident, et il vivra avec toi. Alors, Rashi explique. Je vous fais oralement Rashi. Que commentaire de Rashi dit, c'est quoi Ger Betoshav? Alors d'abord, on parle ton frère. Alors c'est quelqu'un, il n'a pas de frère. Ouais. Donc moi, j'ai pas de frère. Comment? Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Hein, ton frère. Alors, on va essayer de comprendre aussi, doucement, la mitzvah concerne ton frère, quelqu'un avec qui tu as des choses en commun. Maïmonide va le dire dans la suite, dans le 10e chapitre. Il va dire pourquoi un juif, on l'appelle ton frère. Pourquoi on l'appelle ton frère? Alors, explication du midrash que rapporte Maïmonide. Parce qu'on a le même papa, c'est Dieu. Zakadosh Baruch Hu. Puisque le verset dit, en parashat Re'e, Bani matem l'Hashem Elokechem. Vous êtes mes enfants, vous êtes des fils pour Hashem votre Dieu. Vous êtes des fils pour Hashem votre Dieu. Donc si on est les fils d'Hashem, c'est contre nous, on est des frères. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit ton frère. Ton frère. Voilà, mais en vérité, donc ça concerne Israël. Alors, Maïmonide ne va pas traiter de ça. Mais si tant est qu'il y aurait un juif et un mauvais juif. Alors, il faut définir ce que c'est un mauvais juif. Ouais, c'est quoi un mauvais juif? Est-ce un mauvais juif, c'est quelqu'un qui vote Ségolène Royal? Non, je blague. Non, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas bien. J'aime bien dire des choses. Parce que là, si vous voulez, on est fatigué. Il est 22h, presque. Si je ne dis pas une insanité de temps en temps, on s'endort. Alors, non, mais surtout, ne relevez pas. Hein. Non, c'est pour dire qu'il faut définir qu'est-ce que c'est un mauvais juif. Hein, c'est tout. Non, je veux dire, je dis justement une bêtise pareille. Parce que... Parce que il faut, c'est pas bien montré qu'il faut définir. Mais disons un exemple simple qu'on peut comprendre, qui est halakhique, qui est vraiment halakhique. Un juif traître, par exemple, il peut être religieux, Shomer Shabbat. Mais par exemple, il dénonce au fisc un concurrent. Parce que ça n'existe pas une entreprise où tout est clean. Et alors, pour couler un concurrent, ouais, il va dire des trucs au fisc pour qu'il fasse, ou alors à l'URSSAF, pour qu'il fasse un examen pour le couler. Ça, c'est qui est très très grave. C'est très grave. Et si quelqu'un, on sait avec des preuves qu'il a fait ça, il n'y a pas de mitzvah de solidarité à son égard. Il n'y a pas de mitzvah de solidarité. C'est comme qui dirait, c'est plus ton frère. C'est un exemple qu'on peut comprendre, je pense. Il y a des exemples plus subtils, mais c'est un exemple qu'on peut comprendre. Là, donc là, si cette personne ne s'est pas amendée, il faut savoir comment on peut s'amender d'une situation comme ça. Et si elle est maintenant nécessiteuse et qu'elle a besoin qu'on l'aide, on ne l'aide pas. Donc le verset dit « ton frère ». Donc c'est des critères légaux, vous voyez. Ton frère, c'est des critères légaux. Ce n'est pas racial. C'est pas racial, parce qu'il peut être quelqu'un de racialement, indubitablement juif. Mais si il se conduit comme ça, alors il n'y aura pas de mitzvah de solidarité. Ça ne s'appelle pas ton frère. Ça, tout ça, c'est des critères légaux. Bien. Maintenant, le verset dit « Ger vetoshav ». Qu'est-ce que c'est « Ger vetoshav » ? Regardez Rashi quand même. J'aime bien faire Rashi. Alors, j'explique. Quand nous voyons les versets de la Torah, le commentateur numéro 1, c'est Rashi. D'ailleurs, dans toutes les éditions classiques, il y a Rashi. Alors, Rashi était donc, il était au 11e siècle, à Troyes, en Champagne, pas très loin de Paris. Et il rapporte de manière très synthétique les explications du Talmud sur les versets. Parce qu'on ne sait pas. Un étranger ou un résident, c'est qui cet étranger, c'est qui ce résident? Regardons le commentaire de Rashi sur le verset 35. Ger vetoshav. Af im uger otoshav. Même s'il est ger, ça signifie étranger. Toshav, résident. Qui est cet étranger résident? Ezeu toshav. Kol chez kibel alav. Chez lo lavod avodate lilim vochen nevelot. C'est ce qu'on appelle le ger toshav. Il y a deux catégories de guerre. Guerre, c'est-à-dire c'est un étranger. Mais il y a deux catégories. Il y a le ger tzedek, c'est-à-dire c'est la personne qui s'associe au peuple juif et qui devient, cette personne devient juive elle-même. Donc ça, ça devient ton frère, ça devient achicha. C'est quoi le ger tosha? Le ger tosha, c'est qui? Lorsque il y a le temple de Jérusalem en terre d'Israël, il y a le peuple juif est structuré comme il se doit, avec un roi d'Israël, le temple de Jérusalem, etc. Bien. Alors, un idolâtre n'a pas le droit d'habiter en terre d'Israël. Un non-juif idolâtre n'a pas le droit d'habiter en terre d'Israël. Par contre, si un non-juif officiellement prend sur lui de faire les 7 commandements noahides, dont le premier commandement, c'est de ne pas faire l'idolâtrie, alors il a le droit d'habiter en terre d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'étranger résident. Toshav, ça veut dire résident. Voilà. Donc l'étranger résident a le droit d'habiter en terre d'Israël. C'est ça l'étranger résident. C'est ça ce que Rashi dit. C'est un non-juif qui a pris sur lui de ne pas faire l'idolâtrie, quand bien même ne mangerait-il pas kasher, ne ferait-il pas Shabbat. Il a le droit d'habiter en terre d'Israël. Eh bien, le verset nous dit que le début du verset, c'est ton frère, mais la fin du verset, cette personne qui n'est pas juive, mais qui fait les 7 commandements noahides, qui accomplit les 7 commandements noahides, et en particulier de ne pas faire l'idolâtrie, si cette personne est dans une mauvaise passe, on doit l'aider. on doit l'aider. Donc c'est vrai que Maïmonide au départ a dit que la mitzvah de Sedaka, c'est par rapport à Israël, certes, mais si c'est quelqu'un qui fait les sept commandements de Noachit, on a oui un commandement de l'aider.
Mais aujourd'hui, c'est-à-dire les Gertoshav, il habite la terre d'Israël.
La terre d'Israël.
Donc aujourd'hui, disons que la Tzedaka vers les Gertoshav, ça peut exister, mais qu'en Israël.
Oui, mais il n'y a pas aujourd'hui le statut officiel de Gertoshav. Il n'y a pas le statut officiel, il n'y a pas le non-juif qui fait les sept commandements de Noachid. Il doit faire les commandements de Noachid. Mais de manière reconnue, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas parce que le peuple juif n'a pas sa structure. En Israël, il y a des idolâtres. Tout le monde sait que le ministère israélien des cultes pourvoit à les réfactions d'idolâtrie, etc. Hein. Ça fait partie de la constitution en Israël, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas une constitution en Israël, mais disons du droit en Israël, que le ministère public entretient l'église du Saint-Sépulcre, que sais-je, de Nazareth, etc. Bon, on va dire, est-ce que le Christ est de l'idolâtrie? C'est un autre sujet. Ah, on ne rentre pas là-dedans. Ok. Bien. C'est comment?
Comment partir de ces cas particuliers du Passouk, Rabbam arrive à généraliser sur les pauvres en général? Parce que là, c'est bien un cas particulier. C'est une personne qui est dans une impasse ou qui est dans une situation intermédiaire. Comment partir de ça, il peut dire, tous les pauvres, on doit les aider? Comment partir de ce Passouk, il arrive à extraire, de dire, tous les pauvres, on doit les aider?
Non, on va voir. On va voir. Il y a plusieurs versets. Il y a plusieurs versets. Mais raison de plus, c'est-à-dire que là, Rashi explique que la mitzvah, d'abord, n'attend pas qu'il chute. C'est dès que tu vois qu'il est dans une mauvaise passe, aide-le. N'attends pas qu'il soit avec des surendettés, etc. Il a un problème, il n'arrive pas à payer trois loyers. Alors aide-le à payer trois loyers. N'attends pas qu'il soit foutu à la porte de son appartement, etc. pour ensuite lui trouver un autre appart. Donc dès le départ, donc raison de plus qu'après tu devras l'aider.
Je ne vois pas en quoi le fait qu'il ait du mal à payer ses trois loyers, ça sera considéré comme un pauvre.
Et après, il va l'huissier, il va y avoir une commission d'expulsion, il sera à la rue.
Ça donnerait cette impression, ça donnerait d'attendre cet état-là pour dire c'est à ce moment-là que je dois l'aider.
C'est ça ce que le verset dit. N'attends pas qu'il soit foutu à la porte. N'attends pas qu'il soit dans une situation extrêmement difficile. Dès qu'il périclite, dès qu'il perd prise, n'attends pas qu'il tombe par terre. Il perd prise, matayado, verezaktabo, saisis-le. Donc raison de plus, plus tard. C'est bon? Non? Je vois pas. T'es pas content? You are not very happy.
C'est la conclusion qui est raison de plus, plus tard. Enfin, c'est soit avant, soit après. Enfin, je sais pas, le découlement de raison de plus, plus tard, il ne me paraît pas évident à partir de ce passage-là, en fait. Le fait de dire, attention, il est en train de... Là, il a un moment difficile, aide-le. Je comprends tout à fait. Mais de là à dire, à partir de ça... plus tard, même s'il est pauvre, on va les dire raison de plus.
Oui. Alors il y a d'autres versets, tu vois pas. Justement, Patoar Tiftar, on n'a pas vu le premier verset. On n'a pas vu, hein. On a vu que, pour le moment, on n'a vu que ce verset. Regardons le verset suivant. Donc, Verezaktabo, donc c'est quelqu'un qui est dans une mauvaise passe. C'est pas le pauvre déclaré, patenté, qui est vraiment foutu. C'est hyperprise. Mata yado imar. Hyperprise. Il est encore imar avec toi. Verset suivant. Altikam itonesher vetarbit veyareta melokera vechei achicha imar. Donc ça veut dire que tu l'aideras. La première chose, c'est quelqu'un justement qui est dans cette mauvaise passe, prête-lui l'argent. Et le verset suivant, le verset 36, nous dit « Prête plus de l'argent, mais ne prends pas d'intérêt et de surplus. » Donc c'est l'interdit de prêter à intérêt. C'est-à-dire, les lois d'interdit de prêter à intérêt, en vérité, c'est à titre, comme vous avez dit monsieur, de solidarité. C'est de solidarité. Les prêts, c'est tant est que la personne, si tu lui prêtes, elle te dit, elle te prouve qu'elle pourra rembourser plus tard. Parce que c'est pas tu prêtes, c'est pas que tu prêtes et que ça ne te remboursera pas. Non, tu lui prêtes pour qu'il puisse bosser. Voilà, pour qu'il puisse bosser et il te remboursera plus tard.
Alors, il y a le temps de l'énergie de Mascanta.
Oui, alors bon, ça c'est un sujet extrêmement important, extrêmement important. Il y a deux notions, il y a deux notions par rapport à ce que vous dites, Madame Krief. Il y a un commentateur qui s'appelle le Torah Tmima, il y a une centaine d'années, il a dit l'idée suivante. La base de l'interdit de prêter à intérêt, c'est pour faire des caisses de solidarité. Caisse de solidarité. Maintenant, il y a autre chose. Il y a quelqu'un, il veut faire un investissement. Ça, c'est pas une solidarité. C'est quelqu'un, il veut, je sais pas, construire 3 usines nucléaires, etc. Et au Japon. Et il a besoin de liquidités pour pouvoir investir, engager des gens et machin, bidule. Alors, ça, c'est pas une question de solidarité. C'est le contraire. Il veut se faire du fric. Ouais, c'est un investissement. Alors fondamentalement, la Torah prévoit des moyens pour faire des investissements avec des plus-values. C'est ce qu'on appelle le Eteriska. Eteriska, il y a des contrats pour des investissements. Mais ça, c'est extrêmement étudié. Ouais, c'est le 5e chapitre du traité Baba Mitzia. C'est un truc très très important dans le Talmud et dans le droit juif, les prêts sans intérêt. Et parfois, oui. Comment ? Oui, comment ? Comment trouver des solutions ? Mais la base de ce qu'on parle ici, de l'interdit de prêter à intérêt, ce sont des caisses de solidarité. Dans toutes les communautés juives, il y a ce qu'on appelle des caisses de prêts sans intérêt. Je vous donne un exemple, c'est pas par forfanterie, je vous dis simplement, personnellement, il se trouve que j'ai une sœur qui est décédée il y a 16 ans. Et donc, à sa mémoire, dans ma famille, on a fait un fonds pour faire une caisse de prêt sans intérêt pour des gens qui sont dans des passes un peu difficiles. Voilà. Mais je vous dis ça pour vous dire que ça existe, c'est pas personnellement, je m'occupe de ça. Pratiquement tous les rabbanim s'occupent de ça, ont des caisses. Il y a quelqu'un, je sais pas, il veut envoyer ses enfants en colonie de vacances, mais il a pas là. Ouais, c'est important d'envoyer ses enfants en vacances. Ouais. Il a pas, il lui manque, je sais pas, 2000 euros pour envoyer ses enfants en vacances. Il pourra rembourser sur un an. Alors là, c'est une mitzvah de prêter. Alors c'est interdit strict avec intérêt, sans intérêt. Ça, c'est pas un investissement, c'est pour la vie quotidienne, si vous voulez. Ça, c'est interdit strict. C'est ce que le verset dit. Continuons. Et c'est écrit Vechei Achicha Imar. Il vivra ton frère avec toi. C'est ça ce que Maïmonide rapporte ce verset. Il vivra ton frère avec toi. C'est-à-dire, tu dois faire en sorte que ton frère ne soit pas sur le côté de la route. Il soit pas éjecté. Ouais, il soit pas éjecté, mais qu'il vive au sein de la vie des gens. Et il vivra ton frère avec toi. C'est une mitzvah positive. Il vivra ton frère avec toi. Bien. Reprenons le texte. Alors, on va voir encore d'autres versets maintenant. C'est dans Dvarim, dans le Deutéronome. Alors là, en français, ça s'appelle Deutéronome. Je vais vous dire exactement le verset. C'est C'est dans Parashat Re'e. Bien. Alors, donc c'est chapitre Tetvav dans Dvarim, verset Zayin. Donc Deutéronome 15, 7. Deutéronome 15, verset 7. Alors, 15, chapitre 15, verset 7. C'est bon? Ça va venir, ça va venir. Ah oui, alors regardez, j'explique comment trouver les chapitres et les versets. Ce qu'il faut savoir, qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. C'est ça le secret. Donc, si on connaît l'alphabet, Aleph c'est 1, Bet c'est 2, etc. Hein? Enfin, c'est comme ça que ça marche. Alors, chapitre Tetvav, verset Zayin. Qui est Becha Evion, Me'achad Achecha, Be'achad Sharecha, Be'artsecha, Asher Hashem Elokecha, Noten Lach. L'eau te amet, c'est levavecha, velotikpot, c'est yadra, machicha, a evion. Je traduis. Qui est becha evion, s'il y a parmi toi un evion. Alors, il y a deux mots pour dire, il y a plusieurs mots pour dire pauvre. Il y a ani, c'est le pauvre. Bien. Ce que nous avons vu dans Parashat Béar, on ne parle pas d'un pauvre, on parle de quelqu'un qui périclite. Il n'est encore pas pauvre. Là, dans la Parashat Re'e, on parle d'un Evion. Evion, Rashi explique, la racine du mot, c'est Ta'ev. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a besoin de tout. Ce qu'on pourrait traduire en français par indigent. Indigent, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, il n'a rien du tout. Il n'a rien. Le verset dit, « Qui est Becha Evion, s'il y a parmi toi un indigent, mais Achad Achecha, d'un de tes frères, Be'achad Sharecha, d'une de tes portes, ça veut dire d'une de tes villes, Be'artsecha, Asher, Hashem, Elokecha, Notenla, dans une des villes de ta terre que Dieu te donne, Lo te'amet, c'est levavecha, velotikpot, c'est yadcha, ma'achicha, a'evion. Ne durcis pas ton cœur, ne retire pas ta main de ton frère l'indigent. Donc nous avons vu dans les versets précédents qu'il y a un commandement positif d'aider la personne qui est dans le besoin. Maintenant, il y a deux interdits de la Torah de ne pas durcir son cœur et de ne pas retirer sa main. Il y a un pauvre, on va voir ça, un interdit de durcir son cœur. Ça veut dire d'être étranger à sa souffrance, à son besoin, c'est un interdit de la Torah. Ça veut dire, interdit de la Torah, pour faire simple, c'est aussi grave que de manger un aliment interdit. Si quelqu'un il dit, oh, moi je suis super, alors, mais attention, hyper religieux, attention, hein. Non, parce que, ça y est, on rigole plus maintenant, hein. C'est bientôt Rosh Hashanah. Il y a les gens orthodoxes, ouais, et il y a nous, les ultra-orthodoxes. Ouais. Ah, super quand même. Hein. Alors, par exemple, vous m'invitez à manger. Vous avez pris chez un traiteur cacher. C'est quoi comme traiteur? Ah non, moi je prends pas cette cache-croûte. Ouais. J'aurais dû vous le dire. Hein. Mais par contre, cette personne, y a un pauvre qui demande. Il dit, j'ai pas le temps. Ben, c'est aussi un interdit de la Torah. C'est un interdit de la Torah, c'est un interdit, on vient de le voir. Là. C'est aussi un interdit de la Torah. C'est un interdit, ça veut dire c'est un interdit.
Il y a quelque chose quand même que j'aime.
Oui.
Il parle que des viandes, l'aide pour celui qui habite en
terre d'Israël. Oui, mais la tradition nous dit que ce n'est pas qu'en terre d'Israël. Hein. Ce n'est pas qu'en terre d'Israël. C'est que la question va se poser, si on est dans une situation, c'est le verset va dire dans la suite, que tu pourrais dire, il y a le temple de Jérusalem, il y a les prophètes, il y a la présence divine, et il y a des pauvres, ça fait des ordres. Comment ça se fait? Alors le verset va dire, il y aura toujours des pauvres. C'est bizarre, hein.
Du coup, à quoi sert le passouk précédent par rapport à celui-là?
Comment?
À quoi sert le passouk qu'on a lu juste avant par rapport à celui-là? Est-ce que celui-là n'inclut pas le passouk précédent?
Non. Regarde, excuse-moi, comment c'est ton prénom? Raphaël. Tu vas voir, ça va se préciser dans la suite. Hein. Oui. Oui.
Est-ce qu'on peut considérer comme pauvre toute personne qui demande?
Ça, on va voir précisément. Alors, attention. Alors, une seconde. On va voir, est-ce que donner dans le métro, c'est une quelconque... Ça a à voir avec, d'abord, je ne sais pas si ça a à voir avec notre sujet. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a à voir avec notre sujet du tout. Je ne sais pas. On va voir. Regardons le verset suivant. Regardons le verset suivant. Donc il y a deux interdits de la Torah. Verset suivant, et c'est le verset que Maïmonide citait. Qui patoar tiftar et tiadra lo. Ve'avet tavitenu dei marsoro asher yersarlo. Donc ne durcis pas ton cœur, ne retire pas ta main, car tu ouvriras ta main à lui. Alors c'est intéressant, tu pourrais dire, tu ouvriras ton cœur. Mais il y a une boutade qui dit, quelle est la plus grande distance dans le monde? Comment? Voilà, c'est ça, c'est la distance du cœur à la poche. C'est-à-dire faire... Il y a quelqu'un, il est dit... Moi, j'ai fait le tour du monde à pied. Chapeau. Ouais. Chapeau. Mais mettre la main à la poche pour donner, c'est une plus grande distance. C'est une grande distance. Et c'est ça ce que le verset dit. Ouvre ta main. Ouvre ta main pour lui. Ouvre ta main. Qui pator tiftar ediatralo ve avet tavitenu. Prête-lui. Prêtez, tu lui prêteras de l'argent. Et la fin du verset est peut-être le plus important. Dei marsoro asher yersarlo. Selon le manque qu'il manque. Ici, le verset nous dit que c'est quoi la mitzvah ? Selon le manque qu'il manque. C'est-à-dire que la mitzvah est relative au manque de la personne. C'est-à-dire, et nous allons voir ça, les détails dans Maïmonide. La mitzvah, c'est pas donner 5, 10 euros, 50 euros. Ça, c'est pas ça la mitzvah. La base de la mitzvah, c'est d'aider la personne selon son manque. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un, on va voir ça dans Maïmonide, quelqu'un, par exemple, c'est pas forcément de l'argent. Quelqu'un, il a du mal à se marier. Pas forcément du mal à se marier, il a besoin de se marier. Eh bien, c'est la mitzvah de Tzedaka d'aider la personne à se marier. C'est une mitzvah de Tzedaka. C'est son manque. Quelqu'un qui est seul, c'est considéré un manque radical. Eh bien, aider la personne à se marier, c'est Tzedaka. Donc, la mitzvah de Tzedaka n'est pas que par rapport à des riches. Tu peux quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a à cœur d'aider quelqu'un à se marier, c'est mitzvah tzedaka. C'est ça ce que le verset. Selon le manque qu'il manque.
Il faut définir le manque.
Alors, alors on va voir. Et d'ailleurs, que si par exemple, il y a des gens, je ne sais pas moi, enfin, maintenant on va voir. Ça, c'est les versets. Maintenant, on va voir dans Maïmonide. On revient à Maïmonide. Hein, parce que Rambam va bien nous définir dans les détails.
Et si, par exemple, parce que c'est beaucoup de penser que si chaque personne devait combler les manques d'une autre personne, par exemple, si plusieurs personnes comblent les manques d'un pauvre, est-ce que c'est considéré tzedaka ?
Oui. Tout ça, on va voir. Hein. On va voir. Mais a priori, c'est aider la personne selon son manque. C'est ce qu'il a dit Maïmonide, mais on va voir dans la suite. La deuxième loi. Vechol aroé anim vakesh. Toute personne qui voit un pauvre qui demande. Ve'elim enam imeno ve'lo natan lo tzedaka over belo ta'ase. C'est ce que nous venons de voir. Toute personne qui voit un pauvre qui demande et détourne son regard de cette personne et ne lui donne pas, transgresse l'interdit que nous venons de voir. Donc tu es en face de quelqu'un qui a un besoin. Tu es en face de quelqu'un qui a un besoin. Je ne parle pas parce que donner dans le métro, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. D'abord, je ne sais pas, tu vas lui donner, il va peut-être s'acheter de la drogue, il va s'acheter du pinard, il va, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ils exploitent la fibre de je ne sais pas quoi des gens. Maintenant, il est possible, tu as quelqu'un, je ne sais pas, d'abord, excusez-moi l'expression. On va essayer de comprendre pourquoi ça ne s'applique pas aux non-juifs. Mais si vous voulez, il y a pas mal de choses à voir. Maïmonide va le traiter dans la suite. Bien. Bien. Maintenant, quelqu'un qui... Il y a un pauvre qui vient te solliciter. Il vient te solliciter personnellement. Et tu dis, j'ai pas le temps, excuse-moi, j'ai pas le temps. Et puis... comme vous dites, actuellement on est trop sollicité, machin, bidule. Oui. Et ça transgresse un interdit de la Torah. C'est un interdit de la Torah. Alors, l'alakha guimel est fondamentale. Le fima chechaser et ani Ata metsuve litenlo. Selon le manque du pauvre, tu es ordonné de lui donner. Imenlo kesut mechasim oto. S'il n'a pas d'habits, on le recouvre. C'est-à-dire, on lui fournit des habits. C'est une mitzvah de la Torah. Quelqu'un n'a pas des habits, je ne sais pas, une famille est pauvre. C'est l'hiver, ils n'ont pas de quoi d'acheter des anoraks à leurs enfants. Tu connais cette famille. Ils n'ont pas de quoi d'acheter des anoraks à leurs enfants. Eh bien, leur fournir des habits, c'est tzedaka. C'est pas seulement de l'argent, ça peut être des habits. Imenlo klibayit, konimlo klibayit. Si il lui manque des meubles, on lui achète des meubles. Enlo isha, masimlo isha. Il n'a pas de femme, on l'aide à se marier. Imaita isha, si c'était une femme, masim ota laish. On l'aide à se marier. Ça fait partie de la mitzvah de tzedaka. Donc ici, c'est ça ce que le verset dit. Selon le manque, c'est pas que du fric, vous voyez. Ça peut être autre chose. Et donc ici, la mitzvah, c'est il faut s'intéresser à l'autre. Quel est son manque? Quel est son manque? Maintenant, lui acheter, je sais pas, il n'a pas d'électroménager. Alors, tu le commandes sur Internet, ouais, la cuisinière, le four, la machine à laver, le sèche-linge, le frigo, le congélateur. Oh, lui-moi.
Je les ai même pas.
Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ça la mitzvah! C'est ce qu'il dit, selon le manque. Alors après, vous allez dire, j'ai pas les moyens. Ah, ça, c'est la deuxième étape. Mais la mitzvah, c'est le complet poisson. La mitzvah, c'est le complet. C'est le packaging. C'est le manque. Ça, c'est la mitzvah. Si vous voulez, nous, on voit en général autrement. On voit autrement. Et je pense que c'est l'idée qu'on a, la charité. Ouais. Bon, allez. Allez. Attends, excuse-moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai là. Allez, tiens. Tiens, prends ça. Bye bye. Ouais. Nous, c'est ça la mitzvah. Ici, nous voyons que c'est peut-être la mitzvah, mais la base, le basique de la mitzvah, c'est pas ça. Le basique de la mitzvah, c'est un pauvre a un manque. Je dois m'occuper de son manque. Maintenant, deuxième étape. Mais moi, je suis pas à Warren Buffett. Ouais. Autrefois, on disait, je suis pas Rothschild. Mais aujourd'hui, ça veut plus rien dire. On dit, je suis pas Steve Jobs. Je suis pas bon, Warren Buffett. Je trouve. Ouais. Je suis pas Warren Buffett. Donc. Alors, ça, on va voir, c'est deuxième étape. Mais la mitzvah, la base de la mitzvah, c'est combler le manque du pauvre. Et le pauvre, c'est polymorphe. Tu peux avoir quelqu'un qui est hyper riche et qui est seul. C'est pas seulement une question de fric. On va voir, je sais pas si on va voir ce soir, par exemple, avec quelqu'un, il a qui, pas avec qui parler. Eh bien, passer du temps à bavarder avec peut être mitzvah tzedaka. Peut être mitzvah tzedaka. C'est un manque. Quelqu'un, il a besoin de taper la discute. Il a besoin. C'est crève de ça. D'avoir quelqu'un avec qui bavarder. Et mitzvah tzedaka. Mitzvah tzedaka. Oh, j'ai pas le temps. Ça me saoule ce truc. Oh là là, dans quel sujet on est parti? Oh là 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 là! Oh, je vais faire qu'une seule séance. Hein. C'est saoulant ce sujet. C'est trop contraignant, moi je trouve. Hein. C'est trop contraignant. Moi j'ai pas le temps pour des trucs comme ça. Comment?
Donc, l'économique, il n'y a pas que de l'argent.
Oui, c'est ça ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il dit. Là. Non, mais c'est extraordinaire. Regardez comment c'est synthétisé de manière.
radical. Il dit, il n'a pas d'habit, il n'a pas de meubles, il n'a pas de femme. Non, c'est quand même assez ramassé. Comme, hein. Bon. La suite. Afilou aya darko shelze e ani lirkov ala sous ve eved ratz le fanav ve ani ve yaran menechasav konin lo sous lirkov alav ve eved la ratz le fanav shenemar dei marsoro asher yirsarlo. Maïmonide cite un passage du traité Ktubot, traité talmudique, qui dit comme ça. L'habitude de cette personne était de chevaucher un cheval. Un cheval, disons, c'est l'équivalent aujourd'hui, une Porsche. Une Porsche, dernier modèle. Ouais. Il avait l'habitude d'avoir une Porsche. Ve'eved ratz lefanav. Et des esclaves qui courent devant lui. Comme qui dirait, c'est vrai, des motards devant. Ouais, c'est là. Il est en Porsche avec un chauffeur et des motards. Et il est devenu pauvre. Il est devenu pauvre. Eh bien, konim lo sous lirkobavlav, on lui achète un cheval pour se bocher dessus et un esclave pour courir devant lui. C'est ça ce que le verset dit. Selon le manque qu'il manque. Ça veut dire que si par exemple tu as quelqu'un, son besoin, il avait un certain standing. Je ne sais pas, il va une fois par semaine à un super resto. Ouais, ça fait partie de son truc. Eh bien, si effectivement on a les moyens, tu dois payer le super resto. Sinon, il crève.
Ça va très bien. Toutes les semaines.
Comment ?
Toutes les semaines.
Si tu as les moyens, oui. Tu lui payes le resto.
C'est pas réaliste.
Ça vous plaît pas. Mais qui me paye le resto ? À moi !
On est plus dans le besoin, là. On est dans le désir.
Non. C'est un standing. C'est le standing. C'est son standing. Comment?
Parce que ça monte, ça descend.
Mais tu as raison. Par exemple, tu as des gens, ils ont des grosses boîtes, ils font faillite. Ouais, ils font faillite. Ah, bon, après ils rebondissent. Tôt ou tard, ça veut dire peut-être pas dans les deux mois, mais bon. Il s'arrange, il va à Natania un peu se détendre, après ils rebondissent, ouais, et puis je ne sais pas quel plan foireux ils vont retrouver, ils remontent une boîte, mais là ils ne sont jamais devenus pauvres. On parle de quelqu'un qui est devenu pauvre.
Mais en quoi racheter quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir un stagiaire privilégié, c'est-à-dire le fait de lui racheter un cheval et quelqu'un qui court devant lui, c'est pas ça qui va l'aider à se nourrir. Enfin, si c'est vraiment ça qu'il faut lui racheter, pour moi c'est plus par rapport au camp de Giraton. C'est-à-dire si on le voit plus sur son cheval, alors les gens vont savoir qu'il est pauvre. C'est-à-dire c'est plus lui racheter une situation que l'aider à survivre. Le but c'est qu'il puisse manger à midi.
Oui, non, mais j'avoue que j'ai du mal personnellement, comme vous d'ailleurs, à visualiser. Mais je peux comprendre, à quelqu'un, il est pauvre. D'accord ?
Il est venu Kléber, et puis habité dans le 16e, ouais. Maintenant, on va pas lui acheter un studio à la Courneuve, il supportera jamais.
C'est ça, alors la communauté doit aider cette personne à louer un appart dans le coin là-bas.
Mais c'est très bien pour lui qu'il
essaie de vivre. C'est déjà nul pour nous, alors pour lui.
Ça peut enrichir son âme que de ne pas être tout le temps dans la richesse matérielle.
Non, c'est pas une question. Je ne crois pas que ce soit. Alors, regardez, on termine les quelques mots là de cette halakha. Me tsouvé atal ashlim chisrono. La mitzvah est de combler son manque. Venata me tsouvé le oshro. Tu n'as pas la mitzvah de l'enrichir. Mais c'est son manque. Si tu veux, il y a. Il y a
comment dire, quand moi j'étais enfant, il y avait mes parents, des fois, ils recevaient des clochards. Il y avait des clochards qui mangeaient à la maison. Je me souviens. Ils mangeaient à la cuisine. Ils mangeaient à la cuisine. Non, je me souviens, il y avait des clochards qui venaient à la maison. Je sais pas, mon père, je sais pas de quelle idée il avait. Ouais, mon père, ce héros sourire si doux, il amenait. Bon, c'était vraiment quand j'étais gosse, je sais pas, je devais avoir 5 ans, 6 ans, je me souviens de ça. Mais des clochards. C'était un peu un autre monde, ça fait longtemps. Je n'ose pas vous dire mon âge, je vous le dirai pas. Mais ça fait longtemps, ouais. Alors, à l'époque, il y avait une seule chaîne à la télé. Alors... C'est bon. Alors... Vous verrez ça, une seule chaîne. À l'époque, il y avait une seule chaîne à la télé.
Ça date.
Ouais. À l'époque, style la guerre d'Algérie, voilà. Je me souviens. merci. Je me souviens. Alors, alors, par contre, tu as un pauvre qui avait un certain standing. Tu le reçois chez toi. Mais c'est interdit de le recevoir à la cuisine. Moi, ça, je comprends. Ça dépend de son manque, tu comprends? Là, tu le reçois à la cuisine, tu le tues. Et même à la limite, c'est nous par exemple, là, avant de venir ici, je vais vous dire quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout. J'enregistre là, parce que ma femme, elle n'est pas là, elle veut toujours que j'enregistre le cours, j'espère que je ne vais pas trop la vexer. Mais on a mangé dans la vaisselle jetable tout à l'heure. Mon repas ce soir, c'était dans la vaisselle jetable. Mais ce pauvre-là, il vient, le pauvre qui avait un certain standing, il faut sortir la vaisselle. Si tu vas pas le recevoir. Ah, mais maintenant il est pauvre, il a rien à manger. Ouais. Ouvre du canigou ronron dans la cuisine, c'est déjà bien.
Nous sommes même pas les assiettes. Dans la boîte directement, c'est bon.
C'est déjà bien, il a rien à manger. Elle dit, monsieur, ça va. Hein? Ok, vous avez rien à manger, on vous reçoit à la cuisine. C'est bon. Hein? Bon, nous on mange, c'est bon. Ok, au revoir. Non, ça c'est interdit. Et même là, si toi, tu manges dans la vaisselle jetable, tu sors la vaisselle. Parce qu'il mange dans la vaisselle. Il sait pas, il y a des gens... Il a besoin de ça. C'est son besoin. Ça fait partie de la mitzvah. Ça, je peux comprendre. Maintenant, l'histoire du cheval, du truc, le machin. Bon, on n'est pas dans cette civilisation, mais, tu dois t'occuper. Voilà. Ici, on voit la mitzvah, ce que le verset dit... Dei marsoro acherir sarlo, que tu dois t'occuper. Le problème, c'est pas toi. C'est bien ce que vous avez dit à Ariane tout à l'heure. Tzedaka, tzedaka, sors un instant. La question, c'est d'aller vers cette personne, de voir son problème, sortir de son problème à toi, et voir qu'il a un problème. Toi, tu as des problèmes. Ah. Mais il y en a qui ont aussi des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes. Alors la mitzvah, c'est son problème. Quel est-il? Voilà. C'est ça la mitzvah. Et tu dois donc t'occuper de son problème. À lui ou à elle. Voilà. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. Ça, c'est clair. D'accord? Bien. Maintenant, il va y avoir une autre étape. J'ai pas les moyens de faire tout ça. J'ai pas les moyens. Nous allons voir ça tout de suite.
Oui, on dit, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire pauvre? Parce qu'on dit, celui qui a un manque, mais tout le monde a des manques de quelque chose. Et donc, est-ce que ce qui définit le pauvre, c'est celui qui demande? C'est celui qui fait la démarche de venir te demander quelque chose? Ou est-ce qu'on n'est pas là-dedans? Ou est-ce qu'on est dans, c'est à toi de voir celui de quoi il a
besoin? Alors, dans le 10e chapitre, ça c'est le 7e chapitre, Il y a quatre chapitres sur la Tzedaka. Dans le dixième chapitre, Maïmonide rapporte la Gemara dans le traité Baba Batra, qui dit qu'il y a huit niveaux dans la Tzedaka. Comment faire la Tzedaka? Un des niveaux, c'est de donner avant que la personne demande. Donner avant que la personne demande. Bon, mais des fois, tu ne le sais pas. Des fois, tu ne le sais pas. Il faut des fois des help. Voilà. Regardons la halakha suivante. Dalet et E. On va faire Dalet et E ce soir. Voilà. Yatom Sheba Leasio Isha. Sochim lo ba'it, matim lo mita, vekol klitash misho, vacharka matim lo isha. Un orphelin à qui tu vas aider à se marier. Sochim lo ba'it, on lui loue une maison, matim lo mita, on met un lit avec la literie, vekol klitash misho, tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne, après on lui l'aide à se marier. Donc ça veut dire, c'est pas simplement tu aides la personne à se marier, à trouver son conjoint ou sa conjointe, comme nous avons vu, c'est mitzvot tzedaka, mais tu l'aides à s'installer. Aider à s'installer, par exemple, des gens qui sont très modestes, qui se marient, eh bien, Le faire des cadeaux de mariage, ouais, faire des cadeaux de mariage, c'est mitzvah tzedaka. L'aider à avoir des meubles et des trucs, de la cagnotte pour ça, c'est mitzvah tzedaka. Ça rentre dans la mitzvah de la Torah. C'est mitzvah de la Torah. C'est pas simplement sympa. Ouais, c'est pas simplement sympa, c'est mitzvah. Maintenant, comme ça, c'est quand même le programme paraît énorme, il y a la halakha suivante. La halakha est, je vous passe la photocopie suivante. Social, oui.
Social, puisqu'il faut lui donner son cheval avec son serviteur. Et donc, le soutien, il est part à tous les niveaux.
Oui. Il n'y a pas que l'argent. Hein. Ce Tzedaka, c'est bien clair, c'est pas que l'argent. Alors, l'halakha, maintenant, nous sommes l'halakha et. Ba ani ve sha'al dai marsoro. Alors, vient un pauvre et demande selon son manque. Donc, un pauvre vient et dit de quoi il a besoin. Dit qu'est-ce qu'il a besoin. Vous savez, par exemple, en France, les gens qui ont la sécurité sociale ne prend pas tout en charge. Mais quelqu'un qui a une grosse maladie, si je ne m'abuse, est pris 100% en charge. Même pour des soins qui sont colossaux. Des soins qui sont absolument colossaux. C'est pris 100% en charge. Bien. Mais il y a des pays, Israël par exemple. Israël, tu as des gens, ils ont besoin d'opérations, c'est pas pris en charge. Des opérations gravissimes, c'est pas pris en charge. Mais c'est colossal. Des soins ophtalmologiques par exemple, des choses comme ça. Et des fois, il faut aller. Il n'y a pas. Israël, finalement, c'est un petit pays. Il n'y a pas les spécialistes de tout aussi, où il y a des listes d'attente énormes. Alors des fois, il faut que la personne elle aille aux États-Unis ou ailleurs, des fois en France d'ailleurs, parce qu'il y a des très très bons services en France pour se faire soigner. Et la personne n'a pas de, de couverture sociale. Et bien des fois, ça fait des ardoises, il y a des dizaines de milliers d'euros. Ça va vite, des dizaines de milliers d'euros. Et ça, c'est un manque. Alors comment faire? Alors, toi, t'es un Richard. Ouais, ben, il dit voilà, il y a un traitement, j'ai un enfant, que Dieu nous en préserve, il a telle maladie, ouais, je dois aller à Houston le faire soigner, il y a une ardoise, 60 000 euros. Pas de problème, une seconde. Sors son chèque, 60 000, au revoir. Ça c'est la mitzvah. Ça c'est la mitzvah. Et il y a des gens qui font ça, hein, je peux vous dire. Il y a des gens. Il y a des gens qui, des gens de notre, aujourd'hui, des balais de tzedaka, des gens qui font la tzedaka de manière colossale. Je vous donne un exemple. J'ai une petite fille à Petah Tikva qui est née prématurée, grande prématurée. Et comme beaucoup de prématurés, a des déficiences pulmonaires. Et donc, dans ses premières années, tout l'hiver, elle était à l'hôpital. Voilà. Donc, il y a pas trois ans, je suis allé voir donc, mes enfants à Petah Tikva. Et j'ai passé un Shabbat à l'hôpital là-bas. Alors, à l'hôpital, dans beaucoup d'hôpitaux en Israël, il y a les repas de Shabbat gratuits, chauds, tous les trois repas de Shabbat, ouais, en abondance pour tout le monde. Même dans les hôpitaux en Israël, il y a beaucoup d'Arabes, ils prennent le repas de Shabbat. Ouais. Et c'est des chassidim de Satmar, de New York, qui payent ça. Dans presque tous les hôpitaux en Israël. Et c'est des sommes colossales. Et c'est des sommes invraisemblables. Des sommes invraisemblables. Et bien, il y en a. Il y en a qui font des trucs comme ça. Maintenant, quelqu'un, c'est ça la mitzvah. La mitzvah, il y a des besoins. Tu pourvois aux besoins. Ça, c'est la mitzvah, comme on vient de le voir. Alors, regardons la halakha et. Ba'ani vesha'al dai marsoro. Vient un pauvre et demande son besoin. Ve'en yad anoten maseget. Le donateur n'a pas les moyens. Noten lo que fi asagat yado. Il donne selon ses moyens. Et combien c'est? C'est combien? Vekama. Ad chamesh nechassav mitzvah minamufrar. Jusqu'un cinquième de son argent, c'est le mieux. C'est pas 50 euros, hein? C'est pas 50 euros. Jusqu'à 5. Alors, vous allez dire, mais comment on va faire? Alors, regardez la suite, je vous ai passé la deuxième photocopie. Jusqu'à un cinquième, ça c'est le mieux. Une seconde. Ve'echad me'asaram benechassav, un dixième de ses biens, c'est moyen. Un dixième, c'est la mesure moyenne. Donc quelqu'un, je ne sais pas, il gagne. Alors ça, il y a énormément de détails hein, là-dessus. Ça c'est... énormément, on verra plus dans les détails, on ne peut pas tout voir en une minute, ouais. Il y a plein de détails. Quelqu'un, je ne sais pas, il gagne 2000 euros, ouais. Alors 200 euros, ça c'est pas bien, c'est moyen. C'est pas bien, c'est moyen. Parot misé, parot mikan, moins que ça, aïnra. C'est avare. C'est avare.
C'est quoi?
Avare. L'avarice. L'avarice. Harpagon. Relisons. Relisons Molière. Ouais. En français, il y a un mot. Avare. Bon, ça veut dire. C'est... Alors, ça, on va voir. Nous ne sommes pas dans une conclusion. Hein. Nous ne sommes pas dans une conclusion. Il y a de multiples sous-chapitres. Mais on y va étape par étape. Pourquoi ? On va voir ça dans la suite. Oui.
Quand on dit 10%, 20% de ses revenus, c'est de ses revenus ou son bénéfice ? Oui. De son salaire ou une fois qu'on a payé ce qui reste vraiment ?
Alors, c'est complexe, c'est très complexe. Oui, c'est très très complexe et ça change énormément. Est-ce que c'est avant impôt, après impôt et tout ça ?
On est dans une société en question. Hein.
Voilà. Avant impôt, avant charge sociale, avant ceci, avant machin. Voilà. Alors, au niveau concret, ouais, au niveau concret de la halakha, je me base sur les décisions légales d'un maître que j'avais invité ici il y a 2 mois et demi, Rav Moshe Touretsky, qui avait fait il y a X années une conférence sur ce sujet précis. On pourrait dire comme ça. Tout d'abord, nous avons vu dans le verset, dans Parashat Béar, un des premiers versets que nous avons vu ce soir, c'est écrit « Vechay achicha ima ». Vechay achicha ima. Il vivra ton frère avec toi. Il vivra ton frère avec toi. Rabbi Akiva lit le verset de la manière suivante. C'est dans le traité Baba Metzia. C'est rapporté dans le traité Baba Metzia. Il dit, il vivra ton frère avec toi. C'est la mitzvah de Tzedaka. De donner à mon frère la capacité de vivre avec moi. Si c'est écrit avec toi, ça veut dire que moi je passe avant mon frère. C'est-à-dire que toi, tu es premier. Mon frère est avec moi. C'est-à-dire, moi, je suis là, et lui, il est avec moi. Encore faut-il que moi, je sois là pour que je puisse lui donner de quoi vivre. Et c'est rapporté dans les commentateurs de Maïmonide, Rav Sadia Gaon dit que je passe avant mon frère. Ce qui a comme incidence pratique la chose suivante. Que si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas combien il faut pour vivre. Disons, quelqu'un, je ne sais pas, il lui faut, il a un appart. Pour avoir un appart décent, je ne sais pas, il lui faut 600 euros. 600 euros. D'accord ? 600 euros. Il lui faut, pour manger par mois, je ne sais pas, combien il faut, 300 euros, je ne sais pas combien. Ouais. Il faut qu'il ait des habits correct, décent, ouais, voilà. Il faut qu'il ait une bagnole pour aller au boulot. Il faut dire à Moshe Touretsky qu'il parte pour être équilibré 3 semaines en vacances par an. Tout ça, tu additionnes, ouais, tu additionnes. Si il a tout juste, il est exempt de ce dont on parle. Il passe avant les autres. Si, raison de plus, si tenir ça, il est un peu déficitaire, il est exempt de tzedaka. Il est exempt de la tzedaka dont on parle. Maïmonide va dire que tout ce dont on parle, c'est quelqu'un qui a plus que ça. Il a plus que ça. Mais tu as des gens qui ont largement plus que ça. Mais alors, il faut définir. Tu as des gens, par exemple, là, on revient de vacances. Oui. Tu as des gens, ils vont passer des vacances de ouf. Oui. Tu as les vacances style, je sais pas moi, rien de spécial. Oui. Et tu as des vacances, je sais pas, invraisemblables. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment les besoins base qu'on a. T'as des gens qui s'ils n'ont pas des habits de marque, des pieds à la tête, ils meurent. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup, s'ils n'ont pas des habits de marque, pour eux, c'est un suicide mental. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Définir, qu'est-ce que ça veut dire une vie décente. Tant qu'il n'a pas une vie décente, il est exempt de ce qu'on appelle un dixième. Il doit donner la tzedaka. Maïmon dit qu'il faut aux parents donner de la tzedaka, même quelqu'un qui est tout juste, et même quelqu'un, on va voir dans la suite, quelqu'un qui est pauvre, il doit donner la tzedaka de temps en temps. Voilà. Alors regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment, parce que il y a beaucoup de détails, si vous voulez, il y a beaucoup de choses nuancées pour arriver à une conclusion pratique de tout ça. Mais en tout cas, ce dont on parle, de la tzedaka, quelle mesure selon ses moyens, c'est quelqu'un qui a plus que la vie décente. Plus que la vie décente. Là-dessus, alors, a priori, si c'est quelqu'un qui a vraiment les moyens, alors il s'occupe vraiment du pauvre. Il s'occupe vraiment du pauvre. Mais tu as des gens qui peuvent être très modestes et quand même faire de la tzedaka, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, et vous l'avez relevé Madame Krief, ça va dans plusieurs directions la tzedaka, c'est pas que du fric. Voilà. Maintenant, même quelqu'un qui est très modeste, et qui n'arrive pas à boucler son budget, il n'est pas pauvre pour autant, mais il est modeste. Donc un dixième, s'il donne un dixième, il lui faut, je ne sais pas moi, 1200 euros pour vivre décemment. Parce qu'avec les enfants, après, c'est très très compliqué et on n'a pas encore tous les éléments pour voir. Quelqu'un, disons, il lui faut 1200 euros par mois pour vivre décemment. Oui. Et s'il donne donc 120 euros, il devient un malus. Et là, c'est déséquilibré. Il est exempt de donner le 1 dixième. Par contre, il n'est pas exempt de donner de temps en temps. Ça, on va voir dans la suite. Ok ? Bien. Merci.
Vous n'avez pas parlé du juif, pourquoi donner au juif ?
Non, on va voir dans la suite. C'est la série, quoi. C'est un suspense terrible. Mais on n'en peut plus. On crève.
La semaine prochaine.
Alors, je résume. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Si vous voulez, je fais cours à Marseille. On peut se retrouver à Marseille. Par contre, il y a cours pour jeunes filles et dames ici de 19h45 à 21h la semaine prochaine. Et la suite de ce sujet, c'est dans 2 semaines. Ok ?